Europe 1. 11h04 sur Europe 1. Bien fait pour vous, c'est maintenant.
Merci Émilie, merci Romain. Rendez-vous dans une heure pour Europe Midi.
Se sentir bien dans sa peau, bien dans sa tête. Partager des bons moments à deux. Retomber amoureux. Disons demain, le site de rencontre pour les plus de 50 ans vous présente Bien fait pour vous.
Europe 1. Bien fait pour vous. Mélanie Gomez et Julia Vignali.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Mélanie.
Bonjour Julia, bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être dans lequel on décortique tous les aspects de notre vie quotidienne jusqu'à midi. Alors ce matin Mélanie, on va s'intéresser à quoi ?
Eh bien Julia, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet de société important. On va se poser cette question, l'obésité est-elle réellement le mal du siècle ? L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, parle en tout cas d'épidémie mondiale. Alors nous verrons quelle est la prise en charge actuelle proposée aux personnes touchées par cette maladie en France. Va-t-on assez loin ? On parlera également de prévention et puis on fera un point sur la chirurgie de l'obésité. Est-elle réellement la solution miracle ? Pour aborder tous ces différents points, plusieurs experts seront en studio avec nous. Le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, le docteur Samy Chaibi, chirurgien digestif, ainsi qu'Anne-Sophie Joly. Elle est présidente du collectif national des associations d'obèses.
Ensuite, à 11h45, comme tous les jours, ce sera notre séquence tendance avec notre duo de chroniqueurs. Il y aura d'abord Séverine Pierron, elle va nous décrypter le phénomène Clean Talk qui affole les réseaux sociaux. Vous savez, ce sont des influenceurs qui font le ménage et ils ont beaucoup de succès, vous l'entendrez. Et enfin, on va terminer cette émission avec une invitation au voyage, celle de notre spécialiste Gavin Clemente-Ruiz. Aujourd'hui, il nous propose quelques idées pour de magnifiques balades à vélo. Et oui, le tourisme à deux roues a de plus en plus le vent en poupe.
Europe 1.
C'est bien fait pour vous, vous êtes sur Europe 1, bienvenue dans votre émission Bien-être Feel Good, celle qui est là tous les jours pour vous rendre la vie plus facile ou en tout cas pour vous aider à mieux comprendre ce que nous vivons ou ce qui nous entoure. Et notre question du jour, c'est la suivante, l'obésité est-elle réellement le mal du siècle ?
En tout cas Julia, en France, 8 millions de patients attendraient que l'obésité soit enfin reconnue comme une maladie grave et invalidante. Que faut-il faire pour changer les choses ? Car si les projections se confirment d'ici à 2030, eh bien c'est tout proche, hein, 2030, une personne sur cinq sera en surcharge pondérale en France. On va détailler tout cela dans un instant avec nos experts, mais pour commencer, notre cher Clément Lanoux a été comme à son habitude dans la rue vous interroger sur le sujet. Bonjour Clément.
Bonjour tout le monde, un sujet en plus qui me concerne aujourd'hui puisque je passe mon année à essayer de perdre du poids et je fais partie de ces personnes qui, pendant juillet, août, pendant les vacances, reprennent tout ce qu'ils ont réussi à perdre dans l'année. Alors c'est la première question que j'ai demandé à des spécialistes. Est-ce que c'est normal de prendre ou de perdre du poids pendant les vacances ? Quand je dis des spécialistes, c'est pas n'importe lesquels, c'est les enfants de 6-8 ans.
Eh ben, pour moi, c'est le moment grossi, parce que c'est là où est-ce que notre maman nous emmène au McDo et tout.
Je grossis. Bah, là, j'ai mangé un panini, des sandwichs et des glaces.
Bah, ils grossissent. À boire de l'alcool, à manger des hamburgers, c'est exactement comme papa.
Voilà, ils dénoncent sur leurs parents. Alors justement, ils ont même défini ce qu'était l'engrenage de la prise de poids.
Eh ben oui, parce que par exemple, quand on prend du poids, eh ben on voit qu'on grossit beaucoup et donc on essaye de faire du sport, mais on n'y arrive pas parce qu'on a la flemme et on continue à manger.
Et oui, parce qu'il y a une grosse part, on en parlera de maladie, mais il y a une grosse part de mental aussi, de se dire bon ben voilà, de toute façon je fais du sport, ça sert à rien. Alors les adultes aussi trouvent parfois ça galère.
Le fait de ne pas rentrer dans ses vêtements et de devoir changer de garde-robe, par exemple.
Dans les transports, ça peut être compliqué aussi pour s'asseoir, dans les transports en commun.
Ouais, qu'on voit le ventre un peu qui sort, quand il commence à faire beau et on essaye de mettre des petites tenues et qu'on voit le ventre ou on voit un petit peu, voilà, ça déborde sur les côtés.
On peut plus fermer son pantalon, ça c'est la première galère. Et ensuite on se dit, bah, il va falloir que je maigrisse. Ça c'est la deuxième galère parce qu'on n'a pas du tout envie de faire.
Et j'ai interrogé vraiment tout type de personnes et je me suis rendu compte que quelle que soit la personne que j'avais en face, les Français ne sont pas satisfaits de leur poids.
Non, je ne suis pas satisfaite de mon poids. J'ai quelques kilos en trop. Au moins 5.
Je ne connais pas beaucoup de femmes qui soient contentes de leur poids. Non, je ne suis pas contente de mon poids.
Oui, mais non, je ne sais pas trop. Oui, non, un peu. Enfin, ça va, je m'accepte un peu, quoi.
Et puis j'ai trouvé la personne, et je vous quitte là-dessus, cette personne qui risque de bien nous énerver.
Je n'ai jamais eu de problème de poids. Je suis toujours taille mannequin.
Allez, on va parler justement entre nous maintenant.
Eh bien, merci beaucoup Clément Lanoux pour cette introduction. On va détailler les choses à présent avec nos invités. Je vais commencer par vous, docteur Laurence Plumet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie, et vous exercez dans le domaine de l'obésité à l'hôpital Antoine Béclair. Avec nous également le docteur Samy Chaibi. Vous êtes chirurgien digestif au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et enfin, Anne-Sophie Joly est aussi autour de la table. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du collectif national des associations d'obèses. Donc, on va commencer avec vous, Anne-Sophie. D'après l'OMS, le surpoids et l'obésité ne cessent de progresser dans le monde. Certains parlent même d'épidémie d'obésité. Est-ce qu'on sait combien de Français sont aujourd'hui en situation d'obésité en France?
Alors, l'obésité en France, c'est 8 millions de personnes. Et en fait, là, je repense au billet d'humeur tout à l'heure sur finalement, les gens sont focalisés sur la taille de pantalon, voire sur quelques kilos. Mais en fait, personne n'a parlé des comorbidités, des maladies associées à l'obésité. Et c'est flagrant et c'est pour ça qu'on se bat depuis des années pour la reconnaissance de tous pour l'obésité, c'est-à-dire qu'effectivement les gens aient conscience que ça va au-delà de la taille de pantalon et au-delà de « je me traîne 4-5 kilos ».
Oui, c'est on n'est pas sur des considérations seulement esthétiques, au-delà.
Bah, ça tue 2,8 millions dans le monde chaque année.
C'est quoi l'obésité justement? À partir de quand on considère qu'on est obèse?
C'est un IMC égal ou supérieur à 30, donc c'est la taille sur le poids au carré qui se calcule, vous regardez
faire des tests sur Internet.
Oui, c'est ça. On regarde, vous regardez comment calculer son IMC et vous tombez dessus. Et effectivement, là, vous tombez sur des chiffres. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le docteur Plumet avant d'arriver ici. On se disait, ben voilà, en fait, quand il y a eu le Covid, les personnes atteintes d'obésité, 47% des gens qui étaient en réanimation, c'était des obèses. Mmh. Et 40% qui occupaient la morgue, c'était aussi des obèses. Donc en fait, sans faire peur ni coller le stress à tout le monde, évidemment, il faut essayer de vivre en bonne santé. Et vivre en bonne santé, c'est aussi se préoccuper de bah, est-ce que j'ai des arythmies cardiaques, est-ce que j'ai de l'hypertension artérielle, est-ce que j'ai tout un tas de troubles, enfin 18 pathologies associées.
Et pas seulement effectivement le tour de taille. Docteur Laurence Plumet, est-ce qu'on sait pourquoi l'obésité ne fait que progresser ces dernières années? C'est la faute à quoi, à qui?
Parce qu'en fait, le cocktail explosif de la prise de poids, il est là. C'est d'abord la sédentarité qui va crescendo dans tous les pays où l'obésité explose. Donc la sédentarité plus. Il ne faut pas oublier qu'en France, il n'y a que 5% de la population française qui fasse régulièrement de l'activité physique. 5%, il y a 95% qui n'en font pas assez. Ensuite, les troubles du sommeil. En France, 70% de la population se plaint d'avoir des troubles du sommeil. Or, manquer de sommeil, ça fait grossir. Et puis également, les troubles anxieux. Mmh. Il y a eu 10% d'augmentation de vente des anxiolytiques, surtout sous l'effet de la crise sanitaire.
Ben oui, j'imagine que le Covid, dans tout ça, ça n'a pas dû arranger la situation.
Sûr, bien sûr, parce que les gens ont davantage mal dormi, les gens se sont beaucoup moins dépensés. Et en plus de ça, on a vu grimper les taux d'alimentation émotionnelle où, sous l'effet de l'anxiété, les gens se sont mis à grignoter, voire des compulsions. Donc, au total, au moins 4 kilos de prix en 2 ans. Au moins.
Docteur Sami Chaibi, on va parler un petit peu de votre pratique. Alors bien sûr, toutes les personnes qui souffrent d'obésité passent pas forcément par la case chirurgie, mais les chirurgies de l'obésité, puisque c'est de ça dont vous allez nous parler aujourd'hui, elles se sont développées, mais alors de façon massive ces dernières années en France. On a des chiffres un petit peu?
Tout à fait Mélanie, alors il y a des chiffres qui sont clairement colligés. Depuis 1997, la chirurgie de l'obésité en nombre, c'est x20. En France.
Wow.
Les derniers chiffres qui ressortent d'une étude, l'étude OBEPI sur la pratique chirurgicale en France, notamment en chirurgie de l'obésité, en 2018, il y a eu 50 000 procédures réalisées pour trois grandes procédures. Il y a eu 35 000 sleeve gastrectomies, 13 500 bypass gastriques et 1500 anneaux.
Docteur Sami Chaibi, il faut préciser d'ailleurs que toutes les personnes qui souffrent d'obésité ne sont pas candidates et ne sont pas forcément indiquées pour ce type de chirurgie. Rapidement, sans rentrer dans trop de détails non plus, c'est quoi les grandes indications? Quelles sont les personnes obèses qui vont avoir droit et vont pouvoir bénéficier de ce type d'intervention?
Absolument, comme vous disiez, tout le monde n'est pas éligible à la chirurgie. Comme disait Madame Joly, l'IMC rentre en ligne de compte. Les indications étaient clairement établies par la Haute Autorité de Santé. Alors, il y a, c'est assez simple, globalement, toutes les personnes éligibles, puisque tous les patients éligibles ne seront finalement pas opérés, ça dépend de leur parcours, mais il faut un IMC soit supérieur à 40 kg par mètre carré avec au moins un suivi de 6 mois minimum, soit un IMC compris entre 35 minimum et plus, avec une comorbidité, comme vous l'évoquiez, Madame Joly.
Une autre pathologie associée. Le diabète, par exemple.
Pas n'importe lesquelles, susceptibles d'être améliorées par la perte de poids, donc par la chirurgie. Le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil, le foie gras, la NASH, des pathologies osteo-articulaires invalidantes, beaucoup.
Voilà. Bon, il y a des critères et ça n'est pas effectivement ouvert à tout le monde. Alors vous restez avec nous tous les trois, on ne fait que débuter cette émission dans laquelle on va parler sans tabou de l'obésité. Apparemment, elle ne fait que progresser en France, cette épidémie silencieuse. Alors pourquoi en parle-t-on si peu? Quelles sont les solutions, les prises en charge proposées actuellement aux personnes qui en souffrent? Et surtout, comment peut-on espérer encore améliorer les choses? On vous détaille tout ça dans quelques minutes sur Europe 1.
Bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre émission Feel Good, mieux vivre ce matin. On réfléchit ensemble à cette question. L'obésité est-elle réellement le mal du siècle? C'est ce que nous voyons avec nos invités. Le docteur Samy Chaibi, vous êtes chirurgien digestif au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Anne-Sophie Joly également, présidente du collectif national des associations d'obèses. Et autour de la table, il y a également le docteur Egal et Laurence Plumet, médecin nutritionniste, fondatrice d'EPM Nutrition, école de napsothérapie. Docteur Plumet, on a vu que le surpoids et l'obésité ne font qu'augmenter en France, mais ce qui est paradoxal quand même, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a jamais eu autant de personnes qui font des régimes différents. Ça veut dire que finalement, tous ces régimes, ils ne font que grossir?
Ah oui, la plupart des régimes non seulement sont inefficaces en termes de perte de poids sur le moyen et sur le long terme, parce que sur le court terme, c'est toujours facile de faire maigrir quelqu'un, mais en plus de ça, effectivement, ils changent complètement les métabolismes de la personne et comment dire, l'exposent
au fameux yo-yo. À faire trop de régimes, je pourrais devenir obèse, peut-être.
Ah oui, c'est ça. Bah d'ailleurs, nous, tous les obèses que nous recevons sont des gens dont le parcours, il est classique. Hein. Ça a commencé par un surpoids modéré et le premier régime, et puis ils ont perdu, ils ont repris plus. Elles refont un régime. Enfin, je dis elle parce que, bon,
beaucoup
les
de
hommes
femmes.
Aussi. Hein. Perdre et hop, et reprendre davantage. Ce qui fait qu'au final, il y a de la perte musculaire qui se fait au fil des régimes. Et puis, la masse grasse adipeuse se développe de plus en plus. Non seulement la composition corporelle change, les métabolismes diminuent, la personne brûle de moins en moins de calories, elle prend de plus en plus de poids et elle s'engage dans le parcours de l'obésité.
Et est-ce qu'il y a des régimes en particulier qui font plus grossir à long terme que d'autres?
Oui, tous les régimes qui sont très sévères et très restrictifs. Tous ceux qui promettent de perdre très vite et en un temps très court sont des mauvais régimes. Mmh. Alors je parle des diètes hyperprotidiques plus, je parle du régime cétogène, je parle de cette mode complètement ridicule du jeûne sur plusieurs jours d'affilée, parce qu'un jeûne sur un jour, ce n'est pas bien grave, mais sur plusieurs jours, ça a des effets délétères. Donc voilà, donc il faut savoir que pour bien maigrir, jamais faire de régime sévère.
Bon allez, on les met de côté les régimes aujourd'hui, les régimes restrictifs. Anne-Sophie, l'obésité, ce n'est évidemment pas un choix et ça pénalise les personnes dans leur quotidien. On ne se rend pas compte hein, tant qu'on ne le vit pas de tout ce que ça engendre justement. Qu'est-ce qui est le plus difficile, si vous avez un exemple à nous donner justement pour ouvrir un peu les yeux?
Alors, il y en a plusieurs. Hein. C'est ça qui est un peu dramatique. C'est que déjà, il y a du jugement. Hein, parce que nous, c'est une pathologie qui se voit. Il y a plein de pathologies qui ne se voient pas chez les gens. Nous, physiquement, on nous repère, j'ai envie de vous dire, 10 km à la ronde. Alors après, voilà, les gens ont tendance, pour certains, à se dire « mais manque de volonté, c'est pas possible, c'est quand même pas compliqué, ils sont pas si intelligents que ça, parce que s'ils étaient intelligents, ils auraient pas de problème de poids ». Effectivement, on a de la grossophobie, on a de la discrimination à l'embauche, on a parfois aussi des soignants qui veulent pas nous soigner parce que, bah, évidemment, ils se disent « ah ouais, non, moi j'ai entendu, je donne des cours à la Sorbonne, j'ai entendu des médecins qui me disent « moi les gros, j'en veux pas ».
Ah oui. Alors et pourquoi là, c'est... Parce que pourquoi? C'est pas plus de boulot aussi?
Alors, je vais être un peu retors là. J'ai entendu des choses assez infâmes. Moi, quand j'étais enceinte, on m'a dit « mais elle est folle, elle est folle, elle est obèse, elle veut un bébé, mais elle est complètement tabanée
Pourquoi ».
Pourquoi? Ben, parce que pour eux, j'allais faire un enfant obèse. Mmh. Alors effectivement, il y a des risques, mais ceci étant, ça s'accompagne. Pareil, on a réussi à avoir une recommandation sur le suivi de la femme enceinte obèse, c'est-à-dire beaucoup plus à risque, il faut protéger l'enfant, attention aux carences. Pas de régime, nom de Dieu, sur des femmes qui sont enceintes. On les encadre, on fait de l'activité physique adaptée. Mais il faut protéger.
Docteur Chaibi, on sait qu'il n'y a pas qu'une seule cause de l'obésité. Quelles sont les pistes de recherche pour arriver à mieux l'expliquer? Parce que l'origine est souvent génétique, non? J'ai l'impression.
Alors, souvent génétique, pas que. Effectivement, il y a des gènes qui ont été mis en évidence. Mais alors, l'obésité est une maladie plurifactorielle. Il y a des causes environnementales, il y a des causes génétiques. Effectivement, on retrouve des histoires familiales d'obésité où les parents, les ascendants, les frères, les sœurs se retrouvent dans une situation d'obésité. pas que, il y a également la prise de certains médicaments qui font prendre du poids. Il y a une nouvelle notion qui est arrivée là depuis quelques années, la notion du microbiote. Il y a des études qui ont mis en évidence que le microbiote, toutes les bactéries, le microbiote intestinal qu'on
retrouve... gentilles bactéries qui peuplent nos intestins.
Absolument.
Et qui nous défendent. Ce
sont nos copines. Et en fait, il s'avère que on a remarqué, il y a des études qui ont été faites sur des souris, quand on retirait certaines bactéries, eh bien, les souris prenaient du poids. Et lorsqu'on les réintroduisait dans leur milieu...
En soignant le microbiote, on pourrait peut-être aider.
C'est une piste, ouais, absolument.
D'accord. Et dans ces cas-là, donc, quand c'est, par exemple, génétique, on a beau manger de façon très équilibrée, on va quand même grossir. C'est vraiment comme ça que ça se passe ?
Je pense que c'est un peu comme face à la douleur, face au Covid, vous l'évoquiez, Madame Jolie. On n'est pas tous égaux face à l'obésité. Il y a des patients, et ils le disent, on les voit en consultation, pourtant, ils arrivent, ils se sentent coupables, ils disent « je ne mange pas beaucoup, je regarde un croissant, je prends 3 kilos ». Et il y a d'autres patients, ils vont finir une boîte de chocolat, ils vont prendre 100 grammes.
Mais il y a des études scientifiques qui montrent qu'il y a 600 portes d'entrée à l'obésité. Les perturbateurs endocriniens en font partie aussi.
Complètement.
Donc c'est vraiment multifactoriel, ce n'est pas à gérer que sur un manque d'activité physique et un apport alimentaire
trop important.
Exactement, alors ça joue, on est bien d'accord, mais pas que.
Et on ne sait peut-être pas encore tout, hein. Docteur Plumet, on le sait peu aussi, mais pendant la grossesse, l'alimentation et le mode de vie de la maman est peut-être un peu déterminant sur la survenue justement de l'obésité chez l'enfant. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça pourrait fonctionner ?
Oui, bien sûr, parce que l'enfant est en connexion totale avec ce que mange et ce que vit sa maman. Moi, je vois des femmes enceintes qui, au lieu d'en prendre, de prendre 15 kilos, vont en prendre 25 parce qu'elles vont se lâcher en se disant, de toute façon, moi, après l'accouchement, je vais perdre tous ces kilos et donc, on se laisse aller. Et ces femmes-là sont plus à risque de mettre au monde des bébés un peu plus gros. On parle de macrosomie, c'est-à-dire des bébés qui pèsent plus de 4 kilos. Bon. Il y a un cas aussi typique qui est le diabète gestationnel, où cette femme qui a probablement une petite prédisposition à développer un diabète par la suite, c'est pas automatique mais il y en a quand même, elle a des glycémies qui montent pendant sa grossesse, donc elle va sécréter plus d'insuline. Le bébé, donc, qui est en connexion avec ce qui se passe dans le sang de sa mère, se trouve également en hyperglycémie et donc lui va sécréter beaucoup d'insuline, ce qui va le faire grossir. Et cet enfant-là va naître avec un poids plus élevé de 4 kilos. Donc on voit bien que pendant la grossesse, il y a cette notion, on parle d'ailleurs de l'épigénétique, où tout commence finalement pendant la grossesse déjà. Mais donc il est important de manger équilibré et varié pendant cette grossesse. Absolument.
Et apparemment le mode d'accouchement aussi peut avoir un impact, que l'on accouche par voie basse ou par césarienne, le risque d'obésité de l'enfant plus tard ne serait pas le même, c'est
Non, n'exagérons quand même pas. Disons que ça passe par le biais du microbiote. Quand l'enfant naît par voie basse, il profite du microbiote vaginal et périnéal de sa mère. Quand l'enfant naît par voie césarienne, il n'en profite pas. Donc on pense que dans ce cas-là, son microbiote sera plus long à s'installer et à se développer. Et comme il y a effectivement beaucoup d'études qui trouvent un lien entre la qualité du microbiote et l'évolution du poids par la suite, on se dit peut-être que ça pourrait avoir une incidence. Mais enfin, de toute façon, la césarienne, s'il faut la faire, il faut la faire.
Hein, Docteur Chahibi Anne-Sophie, Jolie citait tout à l'heure certaines discriminations médicales dont sont victimes justement les personnes obèses. Comment c'est possible ? Vous confirmez que ça existe en tout cas ? J'imagine pas dans votre service a priori, mais bon.
Je pense qu'il y a une thématique un peu taboue, mais la grossophobie médicale existe. Je pense dans une très par mineur des cas, mais la conséquence en fait de la grossophobie médicale, c'est que les patients peut-être parfois honte d'aller consulter, puisque
chez le gynéco, chez l'ophtalmo, chez le dentiste, donc ils prennent pas soin d'eux, c'est ça.
Quelle que soit la cause en fait du motif de consultation, on va à un moment donné revenir sur le poids.
Et ils se mettent encore plus en danger parce qu'ils prennent pas soin d'eux, Anne-Sophie.
C'est difficile de gérer l'obésité parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de médicament qui existe sur lequel vous avalez les 3 cachetons et après c'est fini, c'est réglé, etc. Ça n'existe pas. Donc il faut réussir à être à la fois avenant chez les soignants et que les patients aient aussi une attitude en disant « attendez, stop ». Tout le monde a un rôle, c'est un couple en fait. On doit aller vers les uns les autres et parler et dire des choses.
Et bien sûr. Anne-Sophie, je sais que vous vous battez notamment pour la reconnaissance de l'obésité comme une maladie chronique, mais qu'est-ce que ça changerait vraiment, véritablement pour les patients ?
Alors je vais vous dire un truc très bête, là ça paraît bête. Hein, parce... C'est que déjà quand vous allez voir un médecin traitant, votre médecin traitant, Et ben en fait, il arrête de vous dire, bah écoutez, Madame Michu, vous êtes bien gentille, mais enfin depuis le temps que je vous connais, allez, on arrête de manger, on infantilise un petit peu, hein. On arrête de manger, on va courir un tout petit peu autour du pâté de maison, puis le problème il va être réglé. Si déjà le médecin, lui, était formé à la fac de médecine en cursus initial, genre de truc un peu bête, hein, ce que je suis en train de vous dire, c'est 2 heures facultatif. C'est pas possible. On produit des professionnels de santé qui sont pas formés à une pathologie, qui vont prendre en charge après derrière. C'est déjà commencé à se dire, on reconnaît l'obésité comme étant une maladie, on le pose clairement une fois pour toutes, parce que pour le coup, obligation de formation en fac de médecine, et puis de l'autre côté, effectivement, faire de la prévention. Mais il y a plein de choses à faire.
Eh bien, merci à vous trois. Surtout, ne bougez pas, on va continuer à se questionner autour des problématiques engendrées par l'épidémie d'obésité actuelle. Dans un instant, on va tenter de détailler quelques solutions pour contrer cette maladie. Que peut-on attendre, notamment des chirurgies bariatriques? Y a-t-il des prises en charge plus globales qui pourraient aider ces patients? Et puis, puisque cette épidémie est galopante, pourquoi le gouvernement ne prend pas ce sujet à bras-le-corps? On voit tout ça dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
Vous écoutez Europe 1, c'est bien fait pour vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors, l'obésité est-elle réellement le mal du siècle? C'est notre question du jour. Et pour y répondre et surtout nous éclairer sur ce sujet de société dont on parle trop peu, ils sont toujours à nos côtés en studio. Le docteur Sami Chaibi, chirurgien digestif au groupe hospitalier public du sud de l'Oise. Également avec nous Anne-Sophie Joly, présidente du collectif national des associations d'obèses. Et autour de la table également le docteur Laurence Plumet, médecin nutritionniste, fondatrice de PM Nutrition, école de napsothérapie. Alors on va voir quelles sont les solutions disponibles à ce jour pour tenter de sortir de l'obésité. Docteur Plumet, alors les régimes, on l'a vu, ne sont pas la meilleure solution, loin de là, même quand il y a des règles diététiques à mettre en place. Hein, ça, j'imagine que c'est le cas. Mais est-ce que ces règles diététiques peuvent suffire à régler le problème ?
Tout dépend du degré de surpoids que l'on a, évidemment. Si le surpoids est léger ou modéré, ça vaut vraiment le coup, mais alors d'être bon dans les trois domaines. Parce qu'on parle toujours de l'alimentation, mais il n'y a pas que ça. Hein.
Activité alors, physique, sommeil et alimentation,
ah
les
mais
trois.
Bien sûr, il faut vraiment le trio. Et trop souvent, les gens se focalisent uniquement sur l'alimentation et se mettent au régime. Il faut au contraire dépenser plus, donc augmenter son niveau d'activité physique pour pouvoir manger plus et mieux, et ainsi éviter la fonte musculaire et les carences. Bon. Et puis son sommeil. Moi, je suis catastrophée de voir que les gens sacrifient leur sommeil sans se rendre compte. Parce que le manque de sommeil, ça augmente les envies de manger sucré, ça fatigue, donc on bouge beaucoup moins. Et puis, ça change complètement les comportements. Et puis, ça augmente la sécrétion de cortisol. Donc, vous voyez qu'il faut vraiment être sur les trois. Et enfin, quand on arrive dans l'obésité, malheureusement, c'est-à-dire un IMC supérieur à 30, donc ce sont des gens qui pèsent au moins 100 kilos, hein. Évidemment, ça dépend de la taille. Hein. Donc, je dis ça comme ça. Là, évidemment, ce que je dis, bah, on fait ce qu'on peut. Parce que quand on pèse plus de 100 kilos, allez donc. D'abord, je dis ne jamais courir, mais au moins marcher. C'est pas facile, monter les escaliers. Tout était fort, ouais. Tout était fort. Et c'est là que la chirurgie bariatrique peut effectivement avoir tout son intérêt quand la personne en est redevable.
Alors justement, pour les obésités les plus sévères et quand les indications sont bien portées, docteur Chaibi, on peut avoir recours donc à la chirurgie bariatrique. Il y a en gros, je vais schématiser un peu, 2 grandes méthodes, le bypass et la sleeve. Commençons peut-être par le bypass. En quelques mots, c'est quoi? Combien de temps ça dure au bloc?
Le bypass, en anglais, en français, ça donne le court-circuit. En fait, on cherche à court-circuiter une partie de l'intestin qui a, lui, pour fonction d'absorber tous les nutriments. Et donc, on va court-circuiter entre 1,50 m et 2 m d'intestin. Oui. Et puis, on va créer une toute petite poche gastrique. L'estomac contenir entre 2 et 4 litres de contenant, on va le réduire aux alentours de 300-400 millilitres, ce qui va nous permettre de mal absorber volontairement et donc de perdre du poids. Alors c'est efficace, hein. Alors il faut suivre les patients sur le long terme. Sur le long terme, enfin il faut même quasiment les suivre à vie.
Oui.
Sur le long terme, c'est 50% d'efficacité de perte de poids et il faut compter entre 2 et 4 heures d'intervention pour un bypass.
50% d'efficacité sur le bypass. Sur 5 ans, donc, ouais. La sleeve, le principe, là aussi?
La sleeve, c'est beaucoup plus simple, techniquement. C'est aussi d'ailleurs pour pourquoi c'est la procédure qui est favorisée en France et dans le monde. On en fait quasiment presque trois fois plus en France.
Vous faites plus de sleeve que de bypass,
ouais,
vous.
Tout à fait, ouais.
Et pourquoi? Parce que c'est moins intrusif.
Alors techniquement, c'est plus simple. Là, en termes de résultats pour des obésités qui sont pas majeures, on parle de pour les patients super obèses, on a des résultats quasi équivalents et on a un taux de complications moins important. Oui.
Anne-Sophie, quelle est la position justement votre position vis-à-vis des chirurgies bariatriques? Alors je crois que leur efficacité, on vient d'en parler, quand c'est bien posé, elle est indéniable. Mais en revanche, il parlait du suivi des patients et je crois que là-dessus, on n'est pas très bon. Hein. On les perd de vue ces patients malheureusement.
Oui, mais c'est suivi à vie de toute façon là-dessus. Moi, je lâcherai rien sur le propos. Les patients ont tendance à se dire bon, bah, voilà, c'est bon, je suis en train de perdre.
J'ai perdu 30 kilos, je suis tranquille.
Voilà, merci, au revoir le médecin, j'en ai plus besoin.
C'est pas que la faute des médecins.
Ah
hein,
non, ouais. On est bien d'accord.
Il y a des patients qui disparaissent des radars.
Complètement, mais ils veulent plus les revoir non plus. Mmh. Et c'est ça le problème, c'est que tout d'un coup, on se retrouve avec des patients qui commencent à pas aller bien du tout et qui sont en super carence. Mmh. Donc ça, non, c'est un contrat à vie patient et médecin. C'est pour ça qu'effectivement, les rocochirurgies, c'est à la louche, hein, c'est plutôt 6-9 mois idéalement sur un suivi, en sachant qu'après, ils passent dans des réunions de RCP pour vérifier s'ils sont publiquement opérables ou pas opérables. Et idéalement, il faut les passer dans les mains d'une association qui soit agréée pour vérifier qu'effectivement, le patient ne vous dise pas ce que vous avez envie d'entendre en tant que professionnel de santé. Et puis se garder 2-3 petits trucs pour lui. Parce que là, on va au clash.
Docteur Plumet, on va changer un peu de sujet. On voit fleurir partout, surtout à cette époque de l'année, de nombreux compléments alimentaires, les brûleurs de graisse, les médicaments qui vont nous faire maigrir, coupe faim, etc. Ça peut vraiment aider les patients qui sont en surpoids ou alors encore moins obèses, j'imagine. Mais il n'y a aucune pilule miracle.
Oui, parce que là-dedans, il y aurait du ménage à faire. Hein.
Poudre de perlimpinpin.
Il y a énormément d'allégations abusives. Hein, et entre autres, le terme de brûle graisse ne devrait pas exister. Je ne comprends pas pourquoi on continue encore de le voir sur certains packages.
Pourquoi on ne brûle pas les graisses?
Non, c'est que ça ne brûle pas les graisses. Aucun complément ne peut brûler de la graisse. Il n'y a rien de magique comme ça.
Docteur Chaibi, vous confirmez? Il n'y a pas de médicaments miracles à ce jour encore?
Malheureusement, enfin heureusement pour les chirurgiens et malheureusement pour les patients, je confirme.
Donc il n'y a rien. Mais l'activité physique, j'imagine que ça, même après une opération, c'est quelque chose que vous préconisez?
On la recommande, alors pas immédiatement après, le temps que le patient recouvre un peu.
Évitons les fuites.
On attend la consultation de contrôle, mais globalement, un mois après, il faut effectivement augmenter cette dépense énergétique de base, de telle sorte à ce que l'organisme a épuisé un peu dans les réserves pour les faire fondre davantage.
Et tout au long de la vie du patient, il ne faut pas lâcher ça.
C'est un nouveau mode de vie qu'il faut entamer, tant sur le plan alimentaire que ça s'intègre aux mesures hygiène et diététiques.
Et psychologique, il y a un suivi psy qui doit être fait avant, et pendant et après. Parce qu'il y a des gens qui partent du principe qu'effectivement, ça va effectivement leur révolutionner leur vie, ce qui est le cas. Et ils sont un peu ce que moi j'appelle en période de lune de miel, en se disant bah, finalement, tous les problèmes vont disparaître.
Ma vie ne sera plus jamais comme
avant.
C'est
ça, mais tous les problèmes sont toujours là. Donc en fait, on perd du poids, on perd pas la vie qu'on a eue avant et on perd pas tout ce qu'il y avait avec aussi. Donc et on a des gens qui partent en dépression aussi à cause de ça
parce qu'ils attendaient beaucoup plus de l'opération.
Donc
Docteur Chaibi, vous voulez rajouter quelque chose?
Oui, effectivement, vous parliez de lune de miel. On a souvent des décompensations sur le plan psychologique voire psychiatrique en post-opératoire et il faut étroitement suivre ces patients qui parfois, effectivement, ils voient leur morphologie changer et donc ils vont prendre des décisions. Ils vont
Je sais que vous recevez des bouquets de fleurs avec des patients qui vous disent merci de nous avoir sauvé la vie, mais en fait, c'est pas non plus la baguette magique, la chirurgie. Hein.
Non, pas que, clairement pas.
Mais je voudrais quand même rassurer nos auditeurs sur le fait que quand même, dans une grande majorité des cas, les gens sont vraiment ravis. Ça se passe très bien. Moi, je suis au comble du bonheur quand j'ai un ou une patiente qui a perdu 30 ou 40 kilos et dont la vie est métamorphosée. Pour ces gens-là, c'est le vrai bonheur. Tout d'un coup, ils se sentent légers. Ils sont même pressés de reprendre le sport et l'activité physique parce qu'enfin, ils ont perdu 30 kilos. Donc ça y est, ils ressentent la légèreté.
Heureusement, il y a du positif quand même.
Hein. Anne-Sophie, bien sûr. On va vous laisser le mot de la fin. Je crois que votre collectif a plusieurs attentes et notamment que les politiques s'emparent une fois pour toutes de ce sujet. Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Un mot de fin rapide. Hein.
Alors, un mot de fin rapide. Un plan interministériel basé à Matignon au niveau du Premier ministre ou de l'Élysée sur, en termes, la communication et l'information. Faire de la prévention, commencer à parler d'alimentation, de surpoids, d'activité physique dès la crèche. Et puis, l'agroalimentaire, travailler sur l'agroalimentaire, attention à ce qu'on met dans l'agroalimentaire. Et nous, effectivement, on travaille aussi avec le Parlement européen de Bruxelles sur ce que doit faire l'Europe, ce que nous devons faire tous à plusieurs niveaux, imposer le Nutri-Score. mais l'imposer
à tous les industriels.
À tous les industriels, sur toutes les pages de publicité, qu'importe le média. Et c'est un travail d'équipe qui doit être mené par plein de monde. Et aimez-vous, Dieu merci, s'il vous plaît, les personnes qui ont du poids. Ça, je sais de quoi je parle. Aimez-vous et estimez-vous.
Allez, on va terminer sur ce mot d'amour. Alors, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été à nos côtés ce matin pour répondre à toutes nos questions. Bonne continuation à vous tous.
Merci vraiment à tous les trois. On va passer à la séquence tendance de Bienfait pour vous, dans laquelle Séverine Pierron va nous décrypter le phénomène Clean Tox. Vous savez, ce sont ces influenceurs qui font le ménage et qui affolent les réseaux sociaux. Et enfin, Gavin Clemente-Ruiz, notre chroniqueur voyage, va nous proposer quelques idées pour de magnifiques balades à vélo. Je suis certaine que le tourisme à deux roues, Mélanie, ça vous botte,
carrément, on ira ensemble.
Et pourquoi pas, restez bien avec nous. Europe 1. Europe 1.
Europe 1, bien fait pour vous. Julia Vignali, Mélanie Gomez.
Vous êtes sur Europe 1, de retour dans Bienfait pour vous, votre magazine bien-être. C'est tous les matins de 11h à midi. À présent, on va démarrer, comme tous les jours, notre partie tendance. Et donc, dans ce studio, il y a déjà Gavin Clemente-Ruiz. Bonjour.
Oh là là,
alors,
quel accueil.
Semaine, alors, Julia, elle vous adore. Hein. Vous savez, je crois que vous êtes... Bon, je ne vais pas le dire.
Pourquoi
trop
je l'adore?
Bah, parce que vous aimez voyager.
Exactement.
Donc, forcément, vous aimez Gavin. Gavin, on va parler aujourd'hui d'une tendance, le voyage à vélo.
Ah, c'est là que Julia m'aime un peu moins.
Voilà. Julia, restez. Pourquoi elle s'en va?
À vélo?
À vélo.
C'est le sujet du jour, hein, c'est ça?
Oui, exactement. On va partir à vélo à travers la France.
Qu'en France, encore? En plus, il y a de quoi faire déjà de belles balades,
ah, oui,
je
oui,
crois.
Carrément. Vous bon. Passez toute votre vie en France, si vous
ah,
voulez.
Mais génial. On reste avec nous, Gavin. On va pédaler dans un instant, mais on va d'abord pédaler avec Séverine Pierron sur les réseaux sociaux. Bonjour, Séverine.
Bonjour.
Merci.
Merci.
Elle
pouvait
pas
le faire pour Laurine.
Alors aujourd'hui, vous nous amenez dans le monde délirant des fans de ménage. Alors, c'est un monde, le monde de Julia. Les fans de ménage sur TikTok. Mais vous regardez des tutos de ménage?
Non, mais j'ai voulu, à un moment donné, j'ai voulu faire ça. Faire des vidéos où je montrais aux gens comment je rangeais. Voilà. C'est de ça dont vous avez dû parler.
Exactement.
Ah non, ils sont des millions, je crois. Séverine a regardé ces vidéos. Ça s'appelle la tendance Clean Tox.
Alors, vous êtes une maniaque de la gratounette, une obsédée de la vitre de douche sans calcaire, une fan de vinaigre blanc.
Oh oui.
Alors, cette chronique est faite pour vous. Oui, figurez-vous que sur TikTok, le réseau social des 12-25, les vidéos de ménage ont la cote. Et cette tendance porte même un nom. Clean Tox, donc de l'anglais clean, bien sûr propre, et Tox, c'est comme TikTok.
Un peu toqué aussi, je trouve.
Alors, le hashtag Clean Tox dépasse quand même les 35 milliards de vidéos vues. Alors, clairement, depuis les confinements, les internautes se passionnent pour leur intérieur. Alors, on connaissait déjà le phénomène Marie Kondo, rappelez-vous, vous connaissez, j'imagine.
Évidemment, c'est ma prêtresse.
L'art du rangement.
Mais, oui, voilà. Mais ça ressemble à quoi, ces vidéos de gens qui font le ménage?
Elle veut savoir où on les trouve.
Elle est déjà sur son téléphone.
Alors, ce sont, comme son nom l'indique, des vidéos de gens qui font le ménage. Mais attention, avec les codes du réseau social TikTok. Donc, ce sont des vidéos courtes et dynamiques, avec des effets de montage, de la musique, du texte rigolo sur les images, etc. Et l'un des tubes, si on peut dire, de la tendance Clean Tox, c'est la vidéo avant-après.
Ah, il y a une salle de bain dégoûtante, et Julia regarde ça.
C'est génial, l'avant-après, c'est génial.
Voilà, il y a aussi celle de la cuisine super dégoûtante rendue étincelante en mode accéléré. On trouve aussi des expérimentations pour décaper des baignoires Cradoc en mélangeant absolument tous les détergents de la salle de bain. Alors ça, je déconseille, c'est hyper pas écologique.
Et dangereux, je pense, pour la santé.
C'est assez dangereux, ouais. Et il y a aussi des tutos pour nettoyer des taches tenaces à base de terre de saumière ou des techniques de grand-mère pour avoir un parquet graisseux.
C'est très
ce
bien
genre.
La terre de saumière. Moi, sur mon parquet, j'en mets dès qu'il y a une tache.
Je savais quoi, j'allais dire terre de saumière. Ma maman m'en a parlé, mais j'étais sûre que Julia en avait dans ses placards.
Et vous savez ce qu'il faut faire? Vous mettez un peu de white spirit après avoir mis la terre de saumière et votre
parquet. Il faut vous rendre compte, Julia, je crois que vous êtes prête. Alors, on trouve aussi des vidéos de filles aux ongles manucurés qui rangent consciencieusement leurs perles de lessive multicolores dans des bocaux. Bref, c'est passionnant.
Mais pardon, c'est quoi l'intérêt? Parce que pour le coup, moi, ça m'est totalement étranger, ce genre de toc. C'est quoi l'intérêt de regarder des gens qui font le ménage chez eux?
Ça fait du bien.
Ouais, alors, ce type de contenu fait du logis a, selon les experts, certaines vertus.
Non, mais sérieux, lesquelles, franchement?
Alors, déjà, ça déstresse.
C'est relaxant, c'est comme un feu de cheminée.
Voilà. Julia comprend, apparemment.
Ça se rapproche un peu des vidéos d'ASMR. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de l'ASMR ensemble.
Oui, je me souviens.
Ces trucs un petit peu hypnotique, voilà. Et c'est, en fait, c'est du contenu qu'on appelle satisfying.
Ah ouais.
Donc, voilà, qui, ouais. qui est un peu rassérénant, si on peut dire en français.
On a perdu Julia, elle est sur King Talk.
C'est totalement hypnotisant.
Elle est King Talk.
Et puis ensuite, bien sûr, ça permet de déculpabiliser face à sa propre paresse. On s'insurge devant la saleté de certains en mode les gens sont vraiment des gros crados. Est-ce que tu as vu ça? C'est incroyable. Alors, il y a certains professionnels du nettoyage extrême qui sont devenus des stars du réseau. C'est par exemple le cas d'un certain Christophe, dont le métier est de décaper les appartements des personnes atteintes du syndrome de Diogène. C'est pas si vous voyez ce
c'est ceux qui accumulent.
Voilà.
Ouais. J'aurais d'en rencontrer un pour aller ranger chez
les accumulateurs compulsifs. Alors, mais Christophe, il a quand même 558 000 followers à son compte.
C'est pas mal, hein?
Et pas mal pour des vidéos de ménage. Et alors, évidemment, la télé et la pub ont flairé le filon. Alors, Christophe, c'est l'un des personnages de la récente émission Les héros du nettoyage sur W9. Peut-être que vous avez vu.
Non, moi, je regarde pas ce genre de trucs.
Je note.
Julia, c'est noté.
Et les marques, évidemment, les marques se battent pour placer leurs produits chez ceux qu'on pourrait appeler presque des influenceurs ménage. Mm-hmm. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme Téléshopping 2.0. Hein. Vous avez des gens qui vous proposent des produits. Alors, ce truc marche super bien pour enlever les taches. Regardez-moi cet aspirateur. Alors, bon, moi, j'ai envie de dire tout ça, c'est bien joli, mais ils ne vendent pas d'huile de coude. Alors, qui est-ce qui va passer l'aspirateur?
C'est Julia, Mélanie.
C'est moi, j'irai chez vous passer l'aspirateur.
C'est très bien rangé chez moi.
Joli titre,
c'est vrai,
ça.
Ouais. Vous aussi, vous êtes tiktoké.
Pas du tout, c'est plutôt mon compagnon qui adore nettoyer la vitre de douche.
J'adorerais
avec
avoir
raclette.
Un compagnon comme ça par
ouais, enfin, sauf que si on ne le fait pas, on se fait gronder. Donc, bon, ouais.
Est-ce que vous pouvez.
Vous êtes un toqué du ménage, Gavin?
Bah ouais, en fait. À la maison, ouais, pas mal. Mon bureau.
Je suis drôlement entouré aujourd'hui.
La maison, ouais, j'aime bien que ce soit propre, rangé.
Non, là, c'est quand même les hystériques du nettoyage. Voilà. Hein, c'est un peu.
Merci, Séverine, pour cet éclairage 2.0. On aime bien comprendre ce qui anime les réseaux. Avec vous, au moins, on est toujours à la page. On peut crâner devant nos ados. Maintenant, on va s'évader un petit peu avec notre cher Gavin Clémenté Ruiz et on va enfourcher nos vélos. Mais d'abord, pour nos auditeurs qui n'auraient jamais fait de vélo de leur vie, est-ce que ce n'est pas un peu compliqué, quand même, des vacances à vélo?
Eh bien, non, c'est devenu de plus en plus facile. On peut trouver plein de vélos très différents. Et surtout, il y a le vélo électrique, le VAE, le vélo à assistance électrique, c'est hyper facile. On peut avaler du kilomètre vraiment sans se poser de questions. C'est pas très compliqué à utiliser. C'est cher à l'achat, environ 2000 euros, mais à louer, si vous partez qu'une petite semaine, c'est vraiment pratique.
Ok, j'ai loué le vélo, ça c'est fait, mais comment on fait pour les bagages à vélo? Juste un sac à dos, quoi.
Alors,
c'est ça?
Non, pas le sac à dos. Alors là, attendez, toute la journée avec le sac à dos sur le vélo, vous allez mourir.
Il y a les sacoches sur les côtés.
Il y a les sacoches latérales, il y a les sacoches de guidon, mais le mieux, c'est le transfert de bagages. C'est des nouveaux services. Ça s'appelle Accueil Vélo, c'est un organisme français. Hein. Ah. Et donc, vous partez d'un endroit et vos bagages vous suivent. Et le matin, vous les déposez et vous les retrouvez le soir dans votre hôtel où vous allez pouvoir
dormir.
En train,
un truc comme ça.
En voiture, en camionnette. C'est un service vraiment, c'est pas offert, c'est payant bien sûr, mais c'est hyper pratique. Comme ça, vous partez presque les mains dans les poches.
Julia peut partir avec ses 6 valises habituelles et faire du vélo.
Je pensais à toutes les malles de Julia.
De voyage. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Mélanie sur un vélo et puis moi, je vais prendre le train avec ses bagages. Ça va être très bien.
Sinon, alors, moi, je comprends rien là, au vélo route, voie verte, voie partagée, voie en site propre aussi. Faut nous éclairer un peu sur tout ça, parce que Julia, elle comprend encore moins que moi. Donc
alors, c'est très très simple, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, les véloroutes, déjà, c'est quoi? C'est l'équivalent des GR quand vous faites de la randonnée, vous savez, les voies.
GR20, tout ça.
Voilà, exactement. Alors, vous avez les véloroutes pour les vélos, c'est l'équivalent, il y en a plein, hein. Il y en a de plus en plus tous les ans. Vous avez les voies vertes. Alors, les voies vertes, c'est quoi? Elles sont juste réservées à la circulation non motorisée. Ça veut dire que vous pouvez y aller entre cyclistes, rollers, piétons.
Vélo électrique, du coup, ça marche.
Vélo électrique, ça marche. Trottinette pour Julia, je sais qu'elle aime bien sa trottinette. Vous avez les voies partagées aussi. Les voies partagées, c'est quoi? C'est ça porte bien son nom. Hein. C'est une voie qui est partagée avec les véhicules non motorisés et motorisés à faible circulation. Mmh. Donc, vous avez des véloroutes qui empruntent aussi bien des pistes cyclables, des voies vertes que des voies partagées, souvent avec peu de circulation.
Gavin, si je veux aller faire du vélo, que j'ai mon vélo,
Vous en avez un super vélo.
Je peux prendre le train ou pas avec?
Ah, bonne question. Eh bien, oui. Alors, il y a plusieurs possibilités. Si vous faites un petit trajet dans les TER, c'est gratuit. Vous pouvez vous l'emmener avec vous, vous l'installer. Il y a un espace qui normalement est dédié à cela. Ensuite, dans les intercités, là par contre, c'est payant. C'est 10 euros pour le vélo. Là aussi, il y a un espace qui est réservé. Et dans les TGV, c'est un peu plus compliqué.
On en voit rarement des vélos dans les TGV.
Exactement.
Hein.
Ouais. Ouais. C'est toujours le même tarif, 10 euros le vélo. Il n'y a pas vraiment de lieu réservé au vélo.
Mais on a le droit.
Vous avez le droit et vous pouvez le plier aussi, le considérer comme un bagage à mettre dans une rame.
Alors on a une question de Laura
sur europe1.fr qui nous dit comment faire pour réussir ses vacances à vélo avec les enfants. Et oui, bonne question.
Ouais. Alors, grosso modo, on dit que au début, on se dit que c'est peut-être un handicap. Hein.
Ah bah oui.
De 6 mois à 6 ans, on préconise le porte-bébé sur le dos. Il y a la remorque aussi.
Ça, c'est bien la remorque.
La remorque, c'est sympa. Alors, des petits trajets.
Julien, vous voulez être dans la remorque. Et les enfants qui pédalent, ça va.
C'est une éternelle enfant. Il faut la remorque. Bon, des petits trajets, hein, n'oubliez pas pour quand il y a des enfants. Sinon, après 6 ans, il y a les barres de traction. Alors, c'est pas les tractions, les pull-up, hein, où on s'accroche et on se soulève. Non,
ils tirent le vélo, les enfants. Non,
c'est l'inverse.
Oui, c'est une sorte de remorque un peu.
Le vélo est attaché. Vous attachez votre vélo d'adulte, de papa, maman, et derrière, vous attachez l'enfant.
Oui, j'ai déjà vu
comme
ça.
Vous avez, ça fait comme un grand super tandem.
Mais lui,
quoi.
Il pédale pas le vélo.
L'enfant pédale, mais moyennement.
D'accord.
Mais c'est génial, toutes ces idées. Mais vous avez, des grandes routes à nous faire connaître qu'on peut faire en vélo, en famille.
Exactement. En France, vous avez plein de véloroutes. La plus connue, c'est la Loire à vélo. C'est là où on va, c'est vraiment la plus fréquentée. Vous pouvez voir tous les châteaux, il y a des routes qui sont vraiment, vraiment réservées au vélo. Il y en a une qui s'appelle le canal des deux mers qui rejoint l'Atlantique depuis la Gironde jusqu'à la Méditerranée.
Ça doit être long, ça.
750 km.
Ah ouais, on va d'abord faire la Loire.
Vous pouvez faire des portions, n'ayez crainte, on passe même par.
Je suis sûr que vous avez pire en termes de kilomètres, non ?
Ouais, j'ai la Vélodyssée, 1200 km. Roscoff-Andaille.
Ah oui, on traverse la France. Là. Ça, c'est pas pour des humains, ça, c'est pour
Pour cet été, vous voulez... non, ça vous dit pas, Mélanie ?
Et le Paris-Roubaix, on peut ou pas avec les gosses ?
Bien sûr,
avec les pavés, ça va être. C'est pas votre préférée. Votre préférée, c'est laquelle ?
Moi, j'aime bien la vélo francette. Rien pour le nom, déjà. Ah ouais. Vélo francette. J'adore ces noms. Ça va de Caen à La Rochelle. 600 km quand même, pour rallier la Manche à l'Atlantique.
Oh là là. Bah, écoutez, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts et sur tout le territoire. Merci beaucoup, Gavin Clément-Terruis. D'ailleurs, vous venez de sortir au Routard un super album qui s'intitule simplement « La France à vélo, nos plus beaux itinéraires de 1 à 3 jours ». Bravo, ça donne carrément envie. Tout à fait. Et on rappelle également que on vous retrouve tous les samedis auprès de William Lémergie dans Samedi en France de 15h à 16h.
Vous montez super bien, Julien, pour le vélo.
C'est vrai.
Je ne vous vois pas du tout en vacances à vélo.
Jamais je le ferai. Mais
quand pour
je
vois les autres, c'est
la même idée. Ça donne envie quand même.
Quand je vois les photos, sérieux, votre livre là, ça donne vraiment envie.
50 idées d'escapades.
Mais en fait, si vous savez, vous m'avez peut-être convaincu. Moi, ce qui m'aurait embêté sur les vacances à vélo, c'est le côté les bagages. Tout ça. Et là, votre service.
Non, franchement, vélo.
Ça doit être super sympa.
C'est vraiment pratique. Et il y a des agences de voyage qui proposent ce service maintenant, qui l'incluent. Donc, si vous voulez partir, je ne sais pas, faire une semaine sans vraiment souffrir, donc vous avez le vélo électrique, vous avez le transport de bagages.
C'est
et
génial.
À vous la liberté.
C'est bien.
Vous êtes sur les véloroutes en
Sinon,
France.
Sinon, tu peux rester chez toi et lire le livre aussi.
c'est une occasion.
C'est ce que je vais faire dans un premier temps.
Merci beaucoup à tous. Merci. C'est noté. Voilà, bien fait pour vous. C'est fini pour aujourd'hui, mais nous serons bien entendu de retour lundi dès 11h. Julia, on va s'intéresser à quoi lundi?
Eh bien lundi, on va vous proposer une cure de jouvence. On verra quels sont les traitements, les moyens pour rester jeune le plus longtemps possible à tout point de vue. Et on ne vous parlera que de solutions scientifiquement validées. Ce sera un dossier en partenariat avec le Figaro Santé. En attendant, place à l'info sur Europe 1, car à suivre, c'est Europe Midi avec vous, Romain Desarbres. Bonjour Romain, quel est le programme ?
Bonjour Julia, bonjour à tous. Le programme, c'est la fin de la campagne présidentielle. Elle se termine ce soir à minuit. Comment vous la trouvez, cette fin de campagne ? On va en parler avec vous et avec Laurent Jacobelli, porte-parole de Marine Le Pen, et avec Jean-Noël Barrot, qui est secrétaire général du Modem et député des Yvelines et soutien, lui, d'Emmanuel Macron. Voilà, c'est dans un instant. À tout de suite.
Merci beaucoup Romain, à tout de suite.